Bonjour tout le monde, Clotilde Seille en votre compagnie pour ces nouvelles voies de service. Ben nouvelles, oui remarquez, est-ce qu'il y aura des nouvelles voies de service? Non, je pense que déjà vous avez fait connaissance avec ces nouvelles voies. La semaine dernière, elles étaient autour de Christiane Campagna. Aujourd'hui, c'est avec moi, avec Clotilde Seille, qu'elles seront en votre compagnie et aussi en ma compagnie, ben pour nous faire découvrir tout ce qui s'écrit dans les journaux, dans les revues, dans le web, tout ce qui peut nous surprendre, tout ce qui peut nous informer. Moi, de mon côté, bien sûr, je vais beaucoup m'occuper d'actualité au quotidien. Alors aujourd'hui, dans cette première demi-heure, eh bien oui, c'est annoncé, c'était redouté par la plupart d'entre nous et voilà que ça arrive, la fin du papier pour le journal La Presse, qui n'existera plus en format papier que pour la presse du samedi. Sinon, ce sera uniquement avec un iPad et cela concerne 84 000 personnes qui utilisent et qui lisent encore le journal papier. Ils ont donc jusqu'au 1er janvier pour se familiariser avec le iPad et avec la presse plus. Il sera beaucoup question aussi de piquets, bien sûr, piquets généreux, de l'éducation. Et puis, il y aura une chronique de Mme Lisiane Gagnon dans la presse qui se demande « Mais qu'est-ce que la haine ?» Et puis sinon, on parlera à nouveau de ces femmes voilées intégralement et de l'intempestive Mme Kuang. C'est incroyable comment tous ces gens-là font la une des journaux, journée après journée, semaine après semaine. Et puis bien sûr, au milieu de tout ça, j'accueillerai Christiane Campagna et sa nouvelle virale du jour. Alors, avant tout cela, j'ai envie de me tourner vers Rémi Armanceau. Bonjour Rémi, comment ça va ce matin?
Bonjour Clotilde, ça va et toi?
Ça va très très bien.
Écoute, est-ce que mon micro est pas trop fort?
Je suis non, en train de je pense que ça m'a l'air très très bien. Rémi, nous sommes jeudi 17 septembre 2015. Je t'ai vu faire des petites recherches tout à l'heure.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on célèbre? Est-ce qu'il y a des citations? Est-ce qu'il y a des trucs drôles?
On célèbre la naissance de Stéphane Rousseau.
Ah oui, ah
ouais, qui a été né en 1966, ce même jour, de Akhenaton, le chanteur de rap français du groupe I.A.M., qui est quand même populaire ici.
Mais ouais, mais quand même. Ouais, si, ils sont venus quand même à I.A.M.
Ouais, il y a pas longtemps.
Quelques reprises.
C'est l'anniversaire aussi d'Adriana Carambeu.
Ouais. Ah, bah oui, mais alors là, alors elle ici, par contre, elle est vraiment pas très connue,
bon,
mais ça fait rien.
C'est pas plus mal.
C'est toi qui le dis, hein, c'est pas moi.
En 1978, c'était la signature à Camp David de deux traités pour la paix entre l'Égypte et l'Israël. En 68, malheureusement, c'était une grosse vague d'attentats terroristes en France. Dont l'attentat de la rue de Rennes, proche de la gare Montparnasse, qui avait fait 5 morts et 52 blessés.
Oui. On se souvient. C'était en quelle année, ça?
En 86, pardon.
Ah oui, parce que 68, non. Ok, bah oui, en 86.
J'ai peut-être dit 68.
Moi, je m'en souviens parce qu'à l'époque, j'habitais encore Paris. Ben, je vivais entre Paris et la province. Alors, on avait été très, 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 très marqués. Bah oui, ça, c'est certain. Oui, ça avait été une commotion terrible.
Et il y en a aussi la citation du jour, dont on enregistre un peu plus.
Un peu plus léger.
Un peu moins grave.
Oui.
Il ne faut qu'une brebis galeuse pour contaminer tout le troupeau.
Ah oui, ça, voilà.
Puis j'ai été
et aussi... on ne citera pas de nom pour la brebis galeuse du jour.
J'ai aussi récupéré deux petites anecdotes qui n'ont rien à voir avec cette journée-là, parce que je n'avais pas grand-chose. Donc, Toy Story 2, le film d'animation de Pixar, a failli ne pas exister, puis a failli être une catastrophe financière, parce que suite à une erreur informatique, juste comme deux semaines avant de rendre le produit final, ils ont eu un problème informatique qui a perdu tous les fichiers à 100%.
Ah oui.
Mais une des ingénieurs, graphistes, quelque chose comme ça, avait tous les fichiers chez eux. Fait qu'ils ont fait un énorme convoi militaire, etc. pour ramener tous les fichiers au studio.
Oui, parce que quand on sait combien ça coûte...
Il y avait comme l'équivalent de 2 millions de dollars de travail,
de
main-d'œuvre, de technique, etc.
Et l'autre, ce serait quoi?
L'autre, où tu penses que les oiseaux dorment?
Ah bah, on se demande toujours.
Mais pas dans leur nid.
Alors, dans les arbres?
Dans les arbres, dans les branches. L'idée reçue comme quoi ils dormiraient dans leur nid est fausse. Les nids servent uniquement à abriter
pour les œufs,
pour les oisillons ensuite. Et après, ils sont abandonnés. Ou récupérés par d'autres oiseaux,
ouais,
etc.
C'est ça.
Mais...
Ah ben.
Ils dorment pas là-dedans.
Parce que justement, je me posais la question pas plus tard qu'il y a 2 semaines. J'étais à la campagne, ça, puis je regardais les arbres, puis le matin, j'écoutais les oiseaux. Je disais, mais vous dormiez où, vous, ma gang de... Parce qu'à un moment donné, t'es pliou-pliou à 4 heures, là, quand c'est pas les corneilles. Enfin bon.
Alors, prochaine fois que tu iras à la campagne, tu seras plus informé sur leur sommeil.
Merci beaucoup. On se prépare maintenant pour la une d'un des journaux principaux. Et je vais commencer forcément par la presse ce matin. Alors oui, la presse qui réussit son virage numérique, c'est à la une, bien évidemment, du journal concerné, le succès de la presse plus qui mène à la fin de l'édition papier du lundi au vendredi à compter du 1er janvier. Ça fait les pages A2 et A3 du journal ce matin. Je reviens là-dessus très rapidement. Yves Boisvert nous parle de Kasparov. Vous vous souvenez, Kasparov, c'est ce joueur d'échecs qui est maintenant un dissident en exil. En exil, eh bien le champion d'échecs rêve du jour où le président russe sera échec et mat. C'est une rencontre avec Yves Boisvert. Et puis l'autre gros titre ce matin à la une de la presse et également d'ailleurs à la une du journal de Montréal, c'est ce don de 10 millions de dollars que Piquet Subban fait à l'hôpital de Montréal pour enfants. On l'appelle maintenant le défenseur bienfaiteur. Aujourd'hui, a-t-il dit, c'est à mon tour de prendre un engagement à long terme envers la ville de Montréal. C'est ce qu'il a lancé hier en français. La vedette du Canadien est Patrick Lagacé qui, du coup, y va une chronique qui s'intitule « J'ai trouvé mon capitaine ». Sinon, Bud et Miller veulent trinquer ensemble. Un nouveau géant brassicole pourrait naître du rachat de Saab Miller. C'est évidemment dans le cahier des affaires. Le petit clin d'œil de Stéphane Laporte avant que j'aille voir ce qui se dit sur cette presse qui ne sera plus papier à partir du 1er janvier du lundi au vendredi. Alors le clin d'œil de Stéphane Laporte, il y a plus de gens sondés durant cette campagne électorale que de gens qui vont voter. Alors, à tout honneur, comment on dit déjà ça? À tout bien, tout honneur, on va... Non, à tout seigneur, tout honneur. Voilà, c'est ce que je cherchais, je pense. Non, on dit pas ça comme ça. En tout cas, bref, peu importe, laissons la place à Guy Crevier, président et éditeur de La Presse, qui dit évidemment dans la presse, aussi bien sur papier que sur La Presse Plus ce matin, que le succès de La Presse Plus permettra à La Presse de franchir un jalon important de son histoire le 1er janvier prochain. À compter de cette date, La Presse Plus remplacera complètement la version papier de La Presse du lundi au vendredi. La Presse deviendra ainsi le premier quotidien imprimé d'importance au monde à être 100% numérique en semaine et se positionnera comme le leader numérique de l'information au Québec. Le samedi, l'édition papier sera maintenue et continuera d'être distribué chez les abonnés et dans les différents points de vente. Le succès du nouveau modèle d'affaires, Monsieur Crevier qui dit que la stratégie numérique qu'ils ont adoptée au cours des dernières années a porté ses fruits, puisque plus de 460 000 personnes consultent désormais La Presse Plus chaque semaine et l'ont intégrée à leur rituel d'information. 30 mois après son lancement, La Presse Plus est plus performante que la presse papier après 131 ans d'existence. Et parallèlement, La Presse Plus obtient un vif succès auprès des annonceurs qui l'ont adopté rapidement comme véhicule publicitaire créatif, performant et mesurable pour joindre une clientèle de choix. Alors, ceci explique cela. J'ai aussi sous les yeux un... j'ai bien du mal avec mes mots ce matin, comment on appelle ça, avec un dessin qui nous montre les performances de la presse, un dessin statistique si vous voulez, je me souviens plus du terme et ça va me revenir. Entre avril 2013 et septembre, avril 2015, il y avait 163 000 personnes qui lisaient en avril 2013, la presse papier, maintenant il n'y en a plus que 81 000. On peut aussi constater qu'au niveau de la presse, lors du lancement en avril 2013, évidemment personne ne lisait encore La Presse Plus. Et en avril 2015, ce sont maintenant 188 000 personnes qui lisent la presse plus. Alors, ceci explique cela et on comprend bien que ça fasse la une de la presse ce matin. Je m'étonne cependant de ne pas avoir trouvé dans aucun quotidien du jour des papiers sur le sujet, chroniques, éditoriaux, tout ça. Et puis, c'est quand même épatant qu'on aime le hockey ou pas, qu'on trouve que ces gens-là sont trop payés. Moi, depuis le temps que je me dis, mais enfin, qu'est-ce qu'ils attendent à tous ces multimillionnaires pour en donner de l'argent? Eh bien, il y en a un qui vient de le faire, c'est Piqué-Souban. Ça fait la une de tous les journaux. Non, pas le Devoir, je pense, ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire à Piqué-Souban, dit Patrick Lagacé, de cesser d'être si merveilleux? Je me fais honte à moi-même à force de me pâmer devant les tranches de merveilleux qu'il nous garoche à tout bout de champ. Sur la glace, d'abord, quand Piquet touche la rondelle, il se passe quelque chose dans le Centre Bell, dans tous les recoins de la bâtisse. Et puis, dans la manière, il y a quelque chose d'Elvis Presley dans Piqué-Souban. Voici un showman assumé, perturbateur de l'ordre établi. Et l'ordre établi dans ce sport et dans ce club est historiquement au conservatisme beige-gris. Pékin, lui, n'en a cure, il se déhanche, il insiste pour mettre un maximum de beauté dans ce jeu, dans son jeu. Et puis, hors de la glace, eh bien, tous les bruits qui tournent autour du défenseur sont positifs. Gentleman avec les fans, grand et petit, s'il fait semblant d'aimer le monde, c'est une mise en scène de calibre olympique. Et puis, il y a évidemment l'argent là, qu'il vient de donner, c'est quand même pas mal d'argent, c'est 1 million, ça représente 1 million par année. Je lisais dans un papier que 1 million vient à peu près de ce million, il y a beaucoup qui vient de sa fortune personnelle et puis sinon ça va venir des différents contrats et de l'argent qu'il fait sur son image et sur son nom, parce que non seulement il gagne bien sa vie sur la glace, mais il gagne bien sa vie en dehors de la glace. Et non, il n'était pas obligé. Il y a un paquet de gens qui ne le font pas. J'entendais ce matin dire que ça, c'est tout ce qu'on sait, mais qu'il y a aussi tout ce qu'on ne sait pas. Il semblerait que, par exemple, le jour de Noël, puis ça, personne ne l'a su, il est allé lui-même, il a pris sa voiture, il est allé à l'hôpital pour enfants malades et il est allé rencontrer les petits. Il n'y avait pas un journaliste là, il n'y avait personne. Donc, il est comme ça, ce Piqué-Souban. Et ben, je trouve ça assez fantastique, surtout quand il a dit « Montréal m'a donné beaucoup en m'engageant sur une longue durée. Il est normal qu'à mon tour, je m'engage auprès de la ville de Montréal et des enfants qui en ont besoin. » Ben écoutez, monsieur, bravo. Lisiane Gagnon se demande ce matin, mais c'est quoi la haine finalement? Le titre de sa chronique, c'est « Un projet liberticide ». Elle dit ça commence bien devant la commission parlementaire qui étudie le projet de loi contre les discours haineux. L'imam Adil Charkaoui accuse la députée Nathalie Roy de tenir des propos empreints de haine. Cette dernière avait dit que M. Charkaoui n'était pas représentatif de la communauté musulmane, ce qui est parfaitement exact et fort heureux, dit Lisiane Gagnon. On voit déjà à quel point certains ont une conception élastique du concept de haine et à quelles dérives peuvent aboutir les procès pour discours haineux. Mais cela n'est que la pointe de l'iceberg. Le projet de loi 59 est un projet liberticide, indigne d'un gouvernement libéral, dans les deux sens du mot, dont on ne comprend pas qu'il ait pu être conçu, approuvé, puis déposé en chambre sans que personne n'y mette le holà. La ministre de la Justice est de toute évidence dépassée par la question. Mais le Premier ministre Couillard, lui, n'est-il pas capable de comprendre la portée des dispositions hallucinante de ce projet. Elle nous rappelle, Madame Gagnon, que ce texte n'est pas à amender, comme l'a promis la ministre. Il est plutôt à jeter aux orties, d'abord parce qu'il fait double emploi pour ce qui est de la répression de la violence avec le Code criminel canadien, et puis ensuite parce qu'il constitue une attaque contre la liberté de parole sans équivalent en Amérique du Nord. Quel que soit ce que j'ai pu lire sur le sujet, de gauche, de droite, du centre, tout le monde est d'accord. Personne n'est pour cette loi-là. À un moment donné, il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui comprenne là-haut, dans les cieux politiques, que c'est pas seul, c'est vraiment tout le monde.
Ça semble être un cas où un parti semble vouloir plaire à une frange précise de son électorat.
C'est ça.
Selon moi. C'est comme dans la campagne fédérale, tous les points de vue, compris les différents partis sur les questions de voile, ça semble pas être une chose de conviction, ça semble strictement... c'est les blocs et les conservateurs qui sont contre parce qu'ils savent que leur électorat est contre, et ceux qui savent qu'une partie de leur électorat est pour sont pour. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de conviction.
Oui, mais c'est pas vrai que l'électorat est contre, parce que la charte, ça émanait directement... Ça émanait directement du Parti québécois.
Ben voilà, le Bloc est contre. Autrement dit, les partis qui ont beaucoup de communautés culturelles dans leur électorat disent, ben les juges ont dit qu'on a le droit, on a le droit.
Oui, mais enfin quand même.
Et les conservateurs,
ouais.
Oui, c'est ça. Je dis que c'est conforme.
C'est ça. Ben moi, je dis non, parce que c'est eux qui ont amené...
Au fédéral, je parle...
Oui, au fédéral, mais c'est quand même le Parti québécois qui a amené une charte contre le voile.
Ah oui.
Alors, en tout cas, on n'y comprendra jamais rien. Christiane Campagna s'exprimait ce matin sur nos ondes, comme ça nous arrive maintenant de nous exprimer, mais de nous chicaner jamais. Voilà, alors on attend toujours vos commentaires d'ailleurs, à savoir si vous êtes content ou non. En attendant, il y a une nouvelle virale que va nous partager Christiane Campagna dans quelques secondes. Alors, Christiane,
oui.
Une nouvelle virale ce matin, quelque chose qui tourne sur la toile.
Ce qui a fait jaser hier, évidemment, c'est l'annonce de la presse qui n'aura plus de version papier en semaine. Ouais. Ça a fait beaucoup, beaucoup réagir. Ouais. Donc, dans un premier temps, bon, les tweets informatifs des animateurs d'émissions d'affaires publiques, donc chez Patrice Roy, il reste 81 000 abonnés à la presse en semaine. On estime que 35 000 devraient migrer vers la presse plus.
Alors, les autres?
Ben, ceci dit, ben c'est ça. Et l'information qui vient compléter ça, c'est qu'il a dit à Pas de Midi sans Info que la version papier représentait par contre 15% de leurs revenus. Donc, c'est une décision d'affaires, clairement.
Oui, c'est clair.
Il y a Louis Cornelier, qui est collaborateur au Devoir, qui dit « La presse papier disparaît. Un triste moment pour le journalisme québécois. Sur la tablette, je ne la lis plus, je la regarde vite. » on est plus enthousiaste du côté de Jean-François Coderre, qui est mon chroniqueur techno à la presse. 1er janvier, mon patron va enlever les petites roues de notre beau bicycle.
Oh!
et Hugo Dumas dit « Je ne lis plus la presse papier depuis un an. J'ai changé mon rituel, même si j'étais réfractaire, et je ne retournerai pas en arrière.
Ouais. »
Brian Mass dit « Un point tournant dans l'histoire des médias. » Il est plus neutre, il fait le constat. Catherine Pogonat dit « La fin de la presse papier en janvier, mon cœur saigne un peu. » Christian Latreille dit « Et mon père de 78 ans qui ne veut rien savoir des tablettes, comment va-t-il lire son journal? »
Parce que c'est ça le problème, finalement. C'est ça le problème. Encore une fois, on va négliger toute une génération de gens. On veut dire, c'est, dans ces 84 000-là, il y a des gens qui, à leur âge, n'auront certainement jamais une tablette. Par contre, on peut dire aussi qu'il y a des gens du troisième âge qui, à un moment donné, se sont mis à l'ordinateur et qui ont aussi adoré ça.
En fait, c'est plus une question des exclus pour toutes sortes de raisons, y compris des raisons financières, d'accès à Internet, d'accès autant à la tablette elle-même qu'à la connexion Internet. Est-ce qu'on va aller à la bibliothèque à tous les jours lire le journal? Bon, des choses comme ça. Il y a les points de vue plus humoristiques. Chez Daniel Thibault, fin de la presse papier, personne ne parle du drame du gars qui dessine le jeu des 7 différences. Personne. Et il dit aussi, c'est Apple qui est content avec tous ces cafés qui seront renversés sur des iPads à la place.
Oui.
Marie-André Labbé qui dit, jour noir pour les litières et les feux de foyer. Et Mathieu Charlebois qui ajoute « Les fonds de cage à oiseaux sont en deuil.
» J'adore!
Mais bon, il y avait aussi une dame hier qui avait écrit un commentaire à propos des pleurs de patates, mais à moins de tenir un stand à patates frites, selon moi, la presse du samedi devrait vous durer la semaine pour ces usages-là.
Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Parce qu'elle est tellement lourde. C'est absolument vrai. Merci beaucoup, Christiane. Quand, moi, je retiens. Attendez. Qu'est-ce qui est en deuil? Nos foyers et nos... Non.
Les litières et les feux de foyer. Et le pauvre gars qui fait le jeu des sept différences.
Oui. Merci beaucoup, vraiment, pour ce bon fou rire. Bon, on va aller voir ce qui se cache à la une du Journal de Montréal. C'est formidable parce qu'à l'ère électronique, il y a, vous savez, les musiques qui peuvent sauter comme sur les CD. Et là, c'est exactement ce qui vient d'arriver. On ne saura jamais pourquoi. Alors, ce qui retient l'attention à la une du Journal de Montréal, c'est cette photo de Piquet Souban, comme toujours tiré à quatre épingles dans son costume cravate. Il est pris en photo aux côtés d'un petit garçon qui a le bras dans le plâtre. Fondation de l'hôpital de Montréal pour enfants. Piquet donne 10 millions de dollars. C'est du jamais vu au Canada, dit le Journal de Montréal. Et on parle également de Rockland MD. Les spécialistes s'en mettent plein les poches, apparemment, notamment les anesthésistes qui se feraient un petit pactole d'à peu près 1000 dollars par anesthésie sans que ce soit déclaré. Comme ça, pouf, qui se mettrait dans la poche d'après le Journal de Montréal, qui titre aussi la presse « La fin du quotidien ». Ben là... Parce que non, ce n'est pas la fin du quotidien. C'est... Puis là, ensuite, ils disent « la presse deviendra un hebdo ». Mais non, ce n'est pas vrai non plus. La presse sera aussi un quotidien. Mais enfin, bon, de toute façon, on se doutait. Et j'ai trouvé très intelligent ce matin M. Crevier, que j'ai entendu en entrevue à la radio. On a essayé de justement d'attiser cette haine entre la presse et le Journal de Montréal et il a dit non, je m'excuse, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Je veux bien vous parler de ce que va devenir la presse, mais je ne veux pas vous parler de ce qu'en pensent les autres. Ils peuvent bien en penser ce qu'ils veulent et j'ai vraiment trouvé ça intelligent. Alors, les nouvelles citoyennes, ça c'est Mario Dumont qui signe un papier ce matin sur cette cour d'appel qui autorise une femme à porter son niqab sur le visage lors de la cérémonie d'obtention de la citoyenneté en pleine campagne. La question évidemment divise les partis. Je vous lis ce qu'il a à en écrire. Alors, il écrit, Mario Dumont, que cette décision de la Cour ramène une discussion utile dans la campagne électorale. Soyons clairs, permettre à une personne de participer masquée à sa cérémonie de citoyenneté, c'est synonyme d'affirmer ni plus ni moins qu'aucun accommodement ne sera jugé déraisonnable. Si le jour où vous devenez Canadien, vous vivez l'événement protocolaire sans qu'on exige que vous vous montriez le visage, vous comprendrez que vous venez d'être accueilli dans un pays où le port du niqab, comme tout autre accommodement, sera universellement accepté. Le débat ne peut pas être éludé par le fait que cette femme devra avoir montré pendant un instant son visage à une agente dans une femme à part, dans une pièce à part bien sûr, avant la sermentation. Le caractère public et protocolaire d'une telle cérémonie dépasse le simple processus administratif de l'identification, dit M. Dumont. Qui nous dit que la symbolique de la cérémonie d'accueil est importante. C'est probablement le moment le plus fort où la société d'accueil exprime à un nouveau citoyen ce que c'est que de vivre ici. Établir avec fermeté l'idée que tout citoyen doit y participer à visage découvert, c'est établir quelques principes fondamentaux non négociables dans ce pays, notamment en matière de rapport aux femmes. Est-ce une hérésie de dire qu'une femme au Canada n'a pas à se cacher? Est-ce agir en bourreau que de définir quelques règles de base concernant la nature d'une cérémonie publique au Canada? Est-ce une négation des droits que baliser le parcours menant à cet immense privilège, celui d'obtenir la citoyenneté canadienne? Il me semble que non. Pour l'instant, ce que nous constatons avec stupéfaction, c'est que des gens qui ne sont pas encore citoyens de ce pays en contestent déjà les lois et les gagnent. Que ceux qui veulent gouverner le pays clarifient leur vision, conclut Mario Dumont. Et puis Madame Bombardier revient sur l'affaire de Madame Kouang, la bâtonnière, qui a finalement démissionné, mais qui a bien promis qu'elle allait revenir. Elle dit que cette bâtonnière, en démissionnant, hélas, elle ne l'a pas fait sans avoir éclaboussé l'institution qu'elle a dirigée. Elle ne l'a pas fait sans avoir mis en lumière l'errance de nombre d'avocats qui se sont portés à sa défense, ces derniers s'appuyant sur une vision strictement légaliste, donc rigide, qui exclut l'éthique et la morale. Madame Lu Kuan-chang, dit Madame Bombardier, incarne cette vision. Elle a omis d'informer le conseil d'administration du barreau qu'elle avait fait l'objet d'un mécanisme de déjudiciarisation à la suite de son interpellation par des agents de sécurité du magasin Simons, d'où elle sortait, avec des jeans de luxe qu'elle avait confondus par distraction avec d'autres bas de gamme qu'elle avait payés. Madame n'a pas cru bon de parler de cet incident avant d'accéder à la fonction de bâtonnière, nous rappelle Madame Bombardier. Elle a terni la fonction de bâtonnière, mais elle n'est pas la seule. Elle dit, Madame Bombardier, que les centaines d'avocats qui se sont portés à sa défense ont donné des munitions à tous ceux qui croient que cette profession est composée de gens pour qui la justice est moins importante que leurs intérêts particuliers, et que la pratique du droit est d'abord une affaire de tracasserie, de fourberie, de formalité et d'apparence. Bref, qu'il n'y a de morale que le droit au sens le plus borné du terme. Madame nous donne rendez-vous en 2017, car elle a l'intention de se représenter à la direction du barreau, ce qui témoigne de son état d'esprit et de sa personnalité. Dans une conférence qu'elle a prononcée il y a quelques jours, elle s'est interrogée devant un public conquis sur les attaques qu'elle subissait, laissant supposer qu'un homme blanc serait à l'abri, sans doute, de ce qui lui arrive. L'utilisation de pareils arguments dévoile encore davantage la personnalité corrosive et manipulatrice de celle qui admet que la politique pourrait l'intéresser à l'avenir. Et alors, voilà ce qu'avait à nous dire Madame Bombardier, qui dit aussi que les ordres professionnels reconnus par la loi ont le devoir d'élire à leur tête des personnes qui ont l'intérêt avant tout des citoyens et en second lieu de leurs membres. Leur comportement doit être au-dessus des soupçons et on attend de réserves, corrections, compétences et sens de la mesure, cela semble correspondre à la nouvelle personnalité de la nouvelle bâtonnière, Maître Claudia P. Prémont. il me semble, sur une petite plage là, avec un petit rhum, puis youpi, enfin bon.
C'est tôt quand même, pour le petit rhum.
Oh non! Ah oui, c'est vrai, oui, 9h30. Non, c'est parce qu'avant, moi, je commençais à 10h.
Mais quelque part sur la planète,
c'est le temps.
C'est la bonne heure.
Oui, c'est exact. Merci. Merci, Yvan. Yvan, qui est présent avec nous, des Lauriers, bien Marie sûr. Lalande,
bonjour.
Christine Boucard. Comment bonjour. Allez-vous tous les trois?
Très bien.
Trois voix de service, et les trois premières ce matin. Ben, plus moi, ça fait déjà quatre. Alors, soyez les bienvenus, même parce que nous, c'est la première fois qu'on casse la glace ensemble. Ben, oui, j'étais pas là la semaine dernière. Mais non, c'est ça. Que voulez-vous? Je me suis épivardée ailleurs.
C'était une belle émission.
Oui, hein? Bon, ben, je m'excuse, alors.
Non,
mais ça met de la pression. Je suis ravie de vous accueillir. Je voudrais rapidement, mais quand même, que vous nous disiez de quoi vous allez nous parler, Marie.
Ce matin?
Oui.
Ce matin, je vais vous parler de...
Non, hier.
Non, pas en général. Ce matin, je vais vous parler de, particulièrement de ce qui s'est dit et écrit sur un nouveau livre sur le TDAH.
Oui.
Oui, d'abord. Et ensuite, je vais vous parler d'une recherche qui a été faite sur les enfants qui viennent d'ailleurs, à Québec. Et aussi... d'insectes qui sont tout à fait affectés par la lumière urbaine.
Mais les hommes.
Pas ce genre-là.
Non, pas ce genre-là. Non. Yvan Deslauriers.
Oui, de mon côté, je suis autour du vélo.
Oui.
Et moi, j'ai des idoles en vélo.
C'est vrai?
Et puis là, je vous dis Sylvie Bernier, puis vous allez me dire, mais...
Ben non, elle pas, vélo.
C'est une athlète, c'est une plongeuse.
Elle plonge, hein, c'est ça?
C'est ça. Alors, on va, on va plonger dans ce qui arrive à Sylvie Bernier aujourd'hui, et le vélo est intégré là-dedans. Et puis ça m'a amené à découvrir quelque chose par rapport aux gens qui ont des problèmes de vue.
Ah, parfait.
Je vous laisse languir là-dessus. Puis après ça, je vous emmène en Nouvelle-Angleterre, autour du lac Champlain, et... Dans mon budget de bénévole, je suis allé pour vous raconter ça.
Christine Boucard.
Alors, en ce qui me concerne, ben, on va revenir vers l'imaginaire. Enfin, c'est sûr qu'il y a l'imaginaire quand on est à vélo, bien sûr. Mais là, il est question d'expos. Et les expos, il y en a une qui s'est terminée, David Altmetsch.
Oui.
Je vais vous en parler rapidement, mais j'ai peut-être une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas pu y aller.
Oui, il y en a.
Et notamment, il y a des documents audio, effectivement, je crois que... Et il sera question également d'une exposition qui est au Musée des Beaux-Arts de Montréal actuellement, jusqu'au 24 septembre. Donc, le temps passe très, très vite.
Laquelle?
Et il s'agit de Ex-pauvreté.
OK.
Et c'est un concept assez intéressant. Et c'est dans le concept des présentations éducatives au musée.
OK.
Et voilà. Donc, je ne vous en dis pas plus. À tout à l'heure.
Eh bien, merci beaucoup. On va mettre... Oh, ben oui, on va leur souhaiter la bienvenue à nos amis collaborateurs bénévoles du jeudi. Allez.
Engouement et file d'attente pour Altmetsch. Alors, c'est un article de Jérôme Delgado dans Le Devoir du 15 septembre. Pourquoi parler d'Altmetsch de nouveau? Parce qu'effectivement, il a remué les foules et il se trouve qu'on peut encore entendre l'artiste commenter ses œuvres sur le site du MAC, du Musée d'Art Contemporain. Ce qui est assez exceptionnel, je dois dire, comme démarche. Et je trouve même extraordinaire. J'ai écouté. Pour vous, ces commentaires, je vais vous en dire quelques mots. Alors, Jérôme Delgado, ce qu'il nous dit, les derniers jours de l'exposition David Altmetsch, Flux, c'est le nom de l'expo, ont créé un rare empressement aux portes du Musée d'art contemporain de Montréal. Des foules présentes jusque tard dans la nuit et longues files d'attente ont permis à ce premier bilan du sculpteur québécois de s'afficher comme un des grands succès du MAC. En tout, depuis juin, 124 000 visiteurs se sont présentés au guichet. Et je crois bien que si...
Alors moi, je suis allée jusqu'au guichet et j'ai rebroussé chemin.
Tellement il y avait
de monde.
Non, mais ça, c'est de la faute à Christine, ça. Là, c'est parce qu'elle en a tellement bien parlé la semaine dernière que tout le monde s'est rué là-bas.
J'aurais dû en parler plus tôt, en fait, pour vous dire allons-y. Donc moi, j'ai eu la chance de la voir, c'est assez extraordinaire. Il est plutôt inusité, nous dit Jérôme Delgado, de voir les gens attendre sur le trottoir pour entrer dans l'établissement de la rue Sainte-Catherine. Dimanche, pour l'ultime jour de l'exposition conçue avec le Musée d'art moderne de la ville de Paris, certains ont patienté jusqu'à une heure. Pluie, pas pluie, il faut croire que le bouche à oreille autour des figures hybrides et des habitables translucides d'Altmetsch a fait mouche. C'est moins qu'on puisse dire.
Alors, Là, vous dites qu'on peut l'entendre. Est-ce qu'on cite, par exemple, quelques phrases qu'il dit?
Je vais vous en rapporter. Je voudrais juste ajouter que ce que nous dit Vanda Palma, qui est responsable de relations publiques au musée, nous avons une importante fréquentation depuis au moins 2 semaines. On sentait que la fin de l'exposition approchait.
Oh, bien sûr.
Les files d'attente s'allongeaient et il n'a pas été prolongé. Enfin, ils ont pris la décision de prolonger les heures d'ouverture pour cette dernière fin de semaine. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de monde qui est resté sur le trottoir. Et il n'a pas été possible, par contre, de savoir où se classe ces flux dans l'historique de fréquentation des expositions. Mais on n'a pas besoin, je crois, de connaître tous les chiffres pour cela. Alors, en ce qui concerne David Nalmesh, qu'est-ce que j'ai retenu? Donc, son travail, c'est essentiellement sur la transformation, sur le cycle. J'ai trouvé ça assez extraordinaire, cette œuvre qui est The Flute and the Paddle, qui est une création dans laquelle, comme il dit, j'ai envie de revisiter tout ce que j'ai fait en tant que sculpteur.
Ça ressemble à quoi?
Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une énorme pièce cubique,
ouais,
faite de plexiglas, comme quatre gros blocs translucides de plexiglas, effectivement conçus comme un labyrinthe, à l'intérieur desquels apparaissent des figures, zèbres, en fait toutes les créations, l'ensemble des créations qu'il a conçues. Et comme il dit, j'ai construit une structure en plexiglas, donc là je vous cite un extrait de son commentaire.
Ouais.
J'ai construit une structure en plexiglas la plus grosse possible, qui prenait presque tout l'espace de mon atelier. Et mon but, c'était d'y intégrer tout ce que j'ai fait en sculpture depuis le début. Donc, début, c'est autour de 2003. 2003, c'est l'année où il a créé le buste assez incroyable de sa sœur Sarah Altmetsch. Je vous en parlais rapidement tout à l'heure. Et donc, il y a les loups-garous, comme il dit, les hommes à tête d'oiseau, je le cite, les bodybuilders, les fruits, la résine, les couleurs. Tout ce que j'ai fait en sculpture pour que la pièce The Flute and the Paddle devienne comme un genre d'index de tout ce que j'ai fait, dit-il. C'est super intéressant, je le cite toujours, pour moi, qu'elle se trouve à la fin de l'exposition parce qu'elle est comme un genre de condensé, un résumé de toute l'exposition. C'est comme une mini-expo dans une exposition, un mini-musée dans un musée. Donc cette mise en abîme qui est assez extraordinaire. Et bonne nouvelle, il semblerait que ce soit un prêt à long terme au Musée national des Beaux-Arts du Québec, sous-entend qu'on va peut-être pouvoir la voir au Musée des Beaux-Arts du Québec.
Et aller à Québec.
Voilà, mais pour cela, je vous donnerai confirmation.
D'accord.
En ce qui concerne le site, pour entendre les commentaires.
C'est ça.
Donc l'expo est finie, mais effectivement, on peut avoir le bonheur d'entendre le commentaire de l'artiste sur flux.macm.org. Flux,
d'accord.
C'est le nom de l'exposition.
D'accord.
Il suffit en fait de cliquer sur l'onglet, un onglet qui s'affiche en jaune. Il y a œuvre et puis il y a aussi œuvre commentée. Vous allez sur œuvre commentée, vous allez laisser le temps à votre ordinateur, parce que c'est quand même assez lourd, de recharger tout ça. Et vous allez pouvoir choisir avec l'image, en cliquant sur l'image de l'œuvre, l'œuvre que vous voulez, dont vous voulez entendre le commentaire. Moi, pour ma part, j'ai été assez fascinée par ce qu'il me dit sur le spectre et la main. C'est une énorme œuvre également, avec des zèbres à l'intérieur. C'est des zèbres qui courent, comme il dit. Il y a aussi le désert et la semence, où il y a ces fameuses noix de coco et ces têtes de loup-garou. C'est comme un cycle. Et Sarah Almetsch, qui est elle, qui a été créée donc en 2003, c'est donc sa sœur. Et pour lui, le trou, c'était l'infini. Et en même temps, l'espace infini. Alors, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais je vais vous laisser.
Merci beaucoup. Mais je suis contente qu'il y ait comme ça du son, parce que malheureusement, moi non plus, je n'ai pas pu y aller pour toutes sortes de raisons, mais je pense aux personnes non-voyantes qui pourront imaginer. Vous savez que j'en connais beaucoup qui vont aux expos et qui s'installent dans les salles, qui ne peuvent pas voir, évidemment, mais qui s'installent dans les salles et qui écoutent l'audio guide.
Ouais.
Alors, il ne faut jamais négliger ça. Je vous remercie beaucoup, Christine. Le monde de l'enfance, Marie.
Le monde de l'enfance. Alors, particulièrement ce matin, je vous parle d'un article qui a été écrit par Mario Asselin, qui est blogueur dans le Journal de Montréal. Et le titre qu'il a donné à cet article, c'est « Un livre paresseux sur le TDAH ». Alors, ce qu'il dit, c'est qu'on a beaucoup entendu parler, la semaine dernière, de l'apparition du livre TDAH, point d'interrogation, pour en finir avec le dopage des enfants, de l'auteur Jean-Claude Saint-Onge. Sur plusieurs tribunes, le surdiagnostic du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Oh, c'est très long, c'est pour ça qu'on dit TDAH.
Oui, 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 bien sûr.
En fait, la manchette, c'est un sujet qui touche de plus en plus de jeunes. D'abord, il y a eu un dossier qui est paru sur la Presse Plus et qui a d'abord permis un survol des propos du livre. L'explosion des diagnostics de TDAH a entraîné une forte augmentation des prescriptions de psychostimulants, par exemple, on parle du propos du Ritalin, en exposant ainsi les jeunes à une forme de dopage qui doit être remise en question. Le système d'éducation pousse au diagnostic, c'est Jean-Claude Saint-Onge qui parle. Pire, il n'y a pas de méthode diagnostique sûre pour le TDAH. Alors, c'est comme un pavé dans la mare.
Comment dire, on se fonde sur quoi?
Voilà, c'est ce qu'il dit, lui. Au micro de Paul Arcand, l'auteur a tenté de convaincre l'auditoire et l'animateur du bien fondé de sa théorie à l'effet qu'il n'a jamais été prouvé que le TDAH est une maladie du cerveau. Christiane Laberge, qui est médecin de famille, n'a pas laissé passer cette affirmation, d'abord en affirmant qu'on ne parle pas d'une maladie proprement dit. Pour elle, c'est un trouble. Et ensuite, en décrivant sommairement de quoi il s'agit. Ce qu'elle dit, c'est comme si l'enfant avait une zapette dans la tête ou une télécommande, ouais, et que ce n'était pas lui qui en avait le contrôle. Alors, c'est assez inconfortable, ah ouais, comme ouais, situation. Ouais, ouais. D'après Mario Asselin, c'est sur Ici Radio-Canada que le livre du professeur de philosophie à la retraite et docteur en socio-économie en a le plus pris pour son rhume. Après avoir lu l'ouvrage Le pédiatre, Jean-François Chicoine, qui est bien connu, l'a qualifié de travail paresseux. De là le titre que Mario Asselin a donné à son blog, ouais, à son, ouais, billet. Ouais,
ouais, oui. Un livre paresseux.
Un livre paresseux. Alors voilà ce qu'il dit. Sans nier que la moitié des enfants est traité pour rien, le docteur Chicoine affirme que Jean-Claude Saint-Onge est un, incapable de comprendre ce qu'est le trouble. Deux, qui est incapable de comprendre comment on fait le diagnostic. Et trois, comment les professionnels en arrivent au diagnostic. Mm-hmm. Le sujet a été pris au sérieux aussi chez Bazo TV, où Jean-Claude Saint-Onge est venu défendre son livre. C'est le docteur Martin Gignac, qui est psychiatre à l'unité des adolescents de Pinel, qui lui a en quelque sorte donné la réplique. Selon ce dernier, la littérature scientifique faite à partir de plusieurs études longitudinales prouve l'existence du trouble et la pertinence de la médication. Le prof Saint-Onge persiste et signe. Il doute que le diagnostic du TDAH existe vraiment. Dénoncer la surmédication des problèmes de comportement est une chose. Plusieurs éprouvent de la détresse psychologique et ont l'impression d'être incompétents, incapables de se concentrer sur la tâche à accomplir. Ne pas accorder de crédibilité au diagnostic des spécialistes en est donc une autre. Des garçons qui chamaillent constamment dans la cour d'école ne constituent pas un bon indice de la présence d'un TDAH, ni celui de ne pas démontrer d'écoute en classe. Seule une consultation avec des professionnels capables d'établir un bon diagnostic, dont les neuropsychologues, à partir de plusieurs critères, peuvent le certifier. M. Asselin, il dit aussi que c'est assez déplorable que le livre de M. Saint-Onge ait laissé entendre que les écoles reçoivent plus de financement pour les enfants TDAH et tirent un avantage des diagnostics. D'ailleurs, il y a eu un rectificatif qui a été publié dans la presse. Le nombre de médecins qui se sont montrés critiques la semaine dernière envers l'ouvrage de Saint-Onge est important. Ce genre de critique ne date pas d'hier, pourtant. Personne ne doute du manque de ressources dans le réseau scolaire, on en parle beaucoup actuellement, oui, pour aider à mieux intervenir auprès des enfants qui ont des troubles d'apprentissage ou de comportement. Quand un enseignant ou un parent éprouve des soupçons au sujet du TDAH, il est difficile d'avoir accès aux professionnels. Champion canadien, le Québec montre une consommation record de médicaments prescrits pour agir et réguler le TDAH. Ça, c'est assez inquiétant.
Oui, c'est inquiétant. Puis oui, en plus, vous savez, je ne sais pas pourquoi, depuis que vous nous partagez cet article-là, j'entends dans ma tête la chanson sur ce poème de Prévert, de l'enfant qui est dans une cour d'école, puis qui regarde tout d'un coup par la fenêtre, et puis qui s'épivarde.
C'est l'enfance.
C'est le propre même de l'enfance. Je veux dire, c'est complètement antinomique de toute façon de laisser un môme sur une chaise pendant... Et pourtant, on est tous passés par là.
Oui.
Pourtant. Et je trouve, moi, personnellement, que souvent on me dit, mon Dieu, à qu'est-ce que tu es cultivé, tout ça. Je dis, j'ai appris ça à l'école.
Oui, alors on questionne l'école, on questionne la surmédication.
Oui.
On questionne beaucoup.
Oui.
Je vais vous en reparler la semaine prochaine. Oui. Je vous présenterai un article où on parle des mythes liés au TDAH.
Mais oui, c'est ça. Ben, c'est parce qu'on finit par douter de tous les gamins et de tous les parents qui prétendent que... Alors qu'il y en a qui doivent réellement avoir des troubles.
En fait, c'est le propos
troubles.
Du livre de c'est M. Saint-Onge, mais il a fait réagir tellement les médecins qu'on peut se permettre de douter et de se questionner par rapport même à
En tout cas, pardon, je vous ai interrompu, mais parce que ça me, ça me semble... Là, voyez-vous, j'avais l'image là, de ce gamin. Tout d'un coup, voilà, quoi. Est-ce que c'est anormal?
Qui sait?
Je vous laisse finir.
Ah, je termine. Alors, Asselin dit, est à souhaiter que le débat puisse se poursuivre, et d'accord avec nous finalement, mieux intervenir auprès des enfants atteints par le TDAH sans nécessairement avoir besoin de recourir aux médicaments est une priorité. Cependant, les bases de discussion doivent être constituées de faits avérés, sans quoi la décision d'administrer des médicaments ou pas devient affaire de préjugés et de qu'en dira-t-on. Élever un enfant ou lui enseigner est déjà pas facile en temps normal. Imaginez avec un débat sur le TDAH qui embrouille les décisions à prendre parce qu'alimentées par des demi-vérités. On est souvent rapide à condamner la trop grande influence de l'industrie pharmaceutique. Et en ce sens, le livre dont il est question dans ce billet arrive à point nommé. Mais la semaine qui a passé, ce sera avéré difficile pour le quatrième essai de M. Saint-Onge. Pendant ce temps-là, certains enfants ont besoin de bons soins. Bien que le livre ne soit pas inutile, il apporte bien peu de réconfort et de pistes de solutions. Voilà.
Oui, ça c'est vraiment dommage. Un texte de Mario Asselin, blogueur au Journal de Montréal, publié donc samedi dernier. Hein, c'est bien
voilà.
ça. Tiens, parlons vélo.
Ben oui.
En selle. Allez, hop là.
Oui. Alors, je vous parle de vélo avec Sylvie Bernier.
Oui. Oui, ben oui. Allez, on plonge.
Au départ, on plonge. Et au départ, on se dit pourquoi.
Oui, c'est ça.
Alors, elle a fait vibrer le pays au complet à Los Angeles en 1984. C'est un article de Gilles Morneau dans le Vélomag de septembre-octobre 2015. Elle a été la première Canadienne de l'histoire à remporter une médaille d'or olympique en plongeon. Elle devenait du même coup la toute première médaillée d'or québécoise, tous sports confondus. Elle est maintenant ambassadrice des saines habitudes de vie pour l'organisme Québec en forme. Puis dans le cadre d'un récent forum sur l'avenir de la route verte, elle a motivé les troupes au cours d'une conférence. Et là, il y a eu une entrevue faite avec le reporter de Vélomag. Puis je vais en faire un résumé. Alors, ses premiers souvenirs de vélo à Sylvie Bernier. C'était son premier tricycle. Je me rappelle aussi ma première bicyclette du jour où mon frère a enlevé les roues d'appoint.
Ben
on se souvient tous de cette situation-là.
On en parlait tantôt parce qu'il y a un gars qui a tweeté. Que vous savez, vous avez entendu parler que la presse sur papier
va
disparaître. Puis il y en a un qui a tweeté. Enfin, on va enlever les petites roues.
Oui, c'est ça. Mais rien ne bat la fois où mon père m'a amené chez Lessard Bicycle. Alors, sur la rue de l'Église à Sainte-Foy, elle vient de Québec, pour m'acheter mon premier vélo neuf. J'étais la quatrième de cinq enfants, donc j'héritais des vélos utilisés tour à tour par mes frères et sœurs, souvent maganés. Les vélos, les frères et sœurs.
Non, non, c'est ça. Et pas seulement les vélos, d'ailleurs, généralement, quand t'arrives derrière. Là.
Alors, ce beau 10 vitesses rouge flambant neuf était ma fierté. Ses parents lui ont inculqué l'autonomie et le vélo était un outil privilégié. De 9 à 18 ans, j'ai pédalé pour me rendre à l'école, à la piscine, chez mes amis. La paroisse Saint-Louis-de-France était vaste et je devais grimper des côtes pour me rendre à destination. C'était bon pour la mise en forme. Je me rappelle le sentiment de liberté que me procurait le vélo. J'allais où je voulais sans n'avoir rien à demander à personne. Est-ce qu'elle a continué pendant ces périodes de compétition? Eh non. De 18 à 22 ans, j'habitais Montréal, tout près de la piscine où je m'entraînais. Tout était axé sur le plongeon à cette époque-là. Je marchais, prenais le métro, plutôt que de risquer de me blesser sur deux roues. Après ma carrière d'athlète, je suis revenu au vélo afin de passer du temps avec mon conjoint et mes trois filles. Nous sommes passés par toutes les étapes. Le siège d'enfant, la remorque, la girafe, puis les petits vélos. On a tout fait ça avec nos enfants.
Oui.
Pour les vacances, nous partions en camping, les vélos accrochés au-dessus de la tente roulotte, prêts à partir en balade. Et puis là, on se demandait, elle a présenté dans la conférence un vieux vélo qu'elle avait eu en 1990 et elle l'a encore.
Ah oui?
Oh oui, et elle l'adore. Il m'a été donné par Raymond Dutil, qui est président de ProCycle, lors d'une présidence d'honneur d'un événement cycliste en Beauce. Aujourd'hui, j'étais fier, lors de la conférence, de montrer que j'utilise toujours régulièrement ce vélo. C'est d'ailleurs son premier choix pour les courtes sorties ou les pistes cyclables en criblure de pierre. Parce que j'ai aussi un vélo de route. Il y a une dizaine d'années, Gervais Rioux, il fait des vélos. C'est les Argon 18. Il lui en a prêté un pour, dans le cadre d'une randonnée de charité. Puis en terminant, elle lui avait dit, « J'aime bien ça, ce vélo-là. Est-ce que je pourrais l'acheter?
Ouais. »
Alors, elle possède aussi un vélo de montagne. Je passe un peu certaines réponses.
Oui, parce que j'ai hâte que vous arriviez
au triathlon.
Au rapport avec les non-voyants.
Maintenant, elle fait des triathlons. C'est la première compétition qu'elle fait depuis les Jeux olympiques de 1984. C'est pas un retour sérieux, c'est juste pour le plaisir. La compétition, c'est bel et bien fini pour elle. Alors, j'ai regardé, elle a participé au triathlon de Montréal de la semaine dernière, qu'elle a terminé en 1h25min35s. Wow. C'était la compétition plus restreinte, c'est des demi-longueurs. Et en cherchant pour son temps, je me suis aperçu qu'il y a aussi un pan-triathlon pour les personnes qui ont des difficultés.
Un paratriathlon,
si je dis pan, oui, je m'excuse. Et j'arrive justement au lien que tu cherchais.
Oui.
Les athlètes qui ont une déficience visuelle, l'acuité visuelle de moins de 6 sur 60 ou un champ de moins de 40 degrés avec correction peuvent participer avec le concours d'un guide du même sexe et utiliser un vélo tandem.
Wow! Et il y en a beaucoup qui l'ont fait ou est-ce qu'on sait? Qu'évidemment, il n'y a peut-être pas beaucoup de...
Quand on va continuer à parler, je vais chercher, mais je pense que j'en ai vu 17 qui l'ont fait lors du triathlon de samedi. Mais il y a plusieurs catégories de personnes ayant un handicap. Alors, il y a 5 catégories possibles. Il y a des gens, entre autres, qui font du vélo avec les mains.
Exactement.
Puis ils font la course avec des fauteuils roulants.
Oui.
Alors, c'est tout adapté pour ces 3 situations.
Il va falloir que je vous donne, il existe une association sportive pour les non-voyants ici à Montréal. Et entre autres, il y a des activités de absolument tous les sports et notamment de vélo. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup dans les journaux, mais je me dis que ce serait peut-être bien à un moment donné qu'on aille voir sur le site et que vous nous disiez tout ce qu'ils proposent comme activité.
En fait, j'allais voir sur le site, mais je pense que je vais aller les voir eux-mêmes parce que le site est très porté vers la performance, vers l'athlétisme, puis je voudrais voir qu'est-ce qu'il y a pour monsieur, madame, tout le monde.
Oui, beaucoup de choses parce que j'en connais beaucoup, moi, qui participent à ça. Puis qui font, entre autres, qui s'en vont marcher dans des montagnes différentes. Mm-hmm. Ils s'en vont. C'est vraiment formidable. Et c'est monsieur, madame, tout le monde. Hein. Ce ne sont pas des gens qui sont des grands, grands sportifs. Pas du tout. Gérald Cousineau, en ce moment, qui fait l'objet de l'audioportrait qui est diffusé sur nos ondes. D'ailleurs, c'est une émission que je vous recommande, qui est absolument extraordinaire. C'est une nouvelle émission aussi, avec celle que nous faisons en ce moment. Ça s'appelle Audioportrait. Et on donne la parole à des gens qui ont une déficience visuelle et qui nous racontent, d'une part, quel est leur rapport par rapport à leur... je veux dire, comment est-ce qu'ils vivent ça, mais aussi comment eux regardent la société.
Oui.
Et c'est vraiment... Et entre autres, donc, Gérald Cousineau nous parle de... Il a participé régulièrement à des activités sportives avec cette association-là, puis c'est vraiment pas du genre sportif, là. Et donc alors, ce serait bien, à un moment donné, je vous donne une mission, mon ami.
Je vais relever le défi.
Nous avons quelques brèves?
Oui, nous avons quelques brèves.
OK, alors, un instant. Une petite brève,
oui, j'en ai une.
Yvan?
Dimanche, c'est le Marathon de Montréal.
Oui.
Alors, il y a tellement de chantiers dans la métropole que le Marathon de Montréal a dû modifier son parcours pour la première fois de son histoire. 2 chantiers en particulier ont causé certains problèmes à l'équipe qui organise la plus grande course à pied au Québec.
Oui, absolument. Une petite brève, mesdames?
Petite brève météo urbaine. L'été, c'est une poésie. L'été, c'est une petite nature à retardement. Alors que les arbres digèrent leur dernière beuverie, que les oiseaux se sont remis à chanter et que le soleil se faufile en douce pour nous faire des accroires d'été éternel. Le temps file et nous amène doucement vers l'automne. Laissons-nous porter. Alors, j'ai une copine, Myriam Binette, qui publie des météos urbaines tous les matins sur Facebook. Alors, on va voir
que
sur
c'est adorable.
Météo insulaire, c'est charmant.
Vous aimez ça aussi, vous, Yvan, la météo un jour? Vous nous arriverez avec,
oui.
Avec des choses
certains
là-dessus?
Certains phénomènes de météo.
C'est ça. Mm-hmm. Christine, il nous reste 45 secondes.
Oh, ben, je voulais parler des retours des oies blanches, puisqu'on parlait de voyage. Au musée de Montmagny, le peintre Jean-Paul Riopel, qui était un amateur
doucement,
de chasse.
Doucement, doucement, là, je ne comprends pas ce que vous me dites. Là, vous allez
oui,
trop vite.
Oui, ben, en fait, à j'ai Montmagny. Quelques secondes. On peut encore voir jusqu'au 20 septembre les oies blanches
d'accord.
au musée de Montmagny.
Oh.
Jusqu'au 20 septembre.
Oh, merci de nous suggérer ça. C'est tellement
c'est
chouette,
beau.
C'est tellement
c'est
beau. Au niveau du son aussi, moi ça me fait pleurer. Il n'y a rien qui me fait plus pleurer que de voir les oiseaux migrateurs qui s'en vont à l'automne et il n'y a rien qui me fait plus pleurer de joie que de les
quand
voir revenir.
Oui, parce que c'est le retour à l'automne.
Oui, on aime ça. Merci beaucoup Christine. Merci. Je vous adore tellement que je vous garde encore pour une demi-heure. Tiens, allez,
oh, on
ça, ça vous va? D'accord, merci. Et c'est la deuxième demi-heure que je passe avec trois voix de service merveilleuses que j'adore. Je vous présente, si vous les avez manquées en première demi-heure, Yvan Deslauriers, Christine, pour une fois, on va commencer par monsieur,
merci.
Christine Boucard et Marie Lalande. Merci à vous d'être là encore aujourd'hui.
C'est un plaisir.
D'abord,
alors dans un premier temps, un premier texte dont le titre est « Ses enfants venus d'ailleurs ». J'aime bien ce titre. C'est un texte de René La Rochelle qui a été publié dans Le Fil, c'est le journal de la communauté universitaire de l'Université Laval,
okay.
en juin dernier. Lors de leur première année d'école au Québec, les jeunes immigrés subiraient de la violence verbale
Ouf.
Et vivraient de l'exclusion sociale. Se faire traiter de barre de chocolat parce qu'on a la peau noire... Dans la cour de l'école, recevoir plus souvent qu'à son tour le ballon de manière agressive, n'être jamais invité aux fêtes d'anniversaire des autres enfants ou à d'autres activités sociales. Voilà des exemples de situations difficiles vécues par de jeunes enfants immigrés lors de leur première année d'école à Québec. Ces exemples sont tirés d'une étude menée par Louise Hamelin-Brabant, professeure à la Faculté des sciences infirmières. Les résultats de cette recherche, dont l'objectif était de mieux comprendre la réalité vécue par ces enfants à l'école, ont paru dans un récent numéro du journal Children in Society. Au fin d'étude, les chercheurs ont interviewé 42 enfants immigrants de première génération, 20 filles, 22 mm-hmm. garçons, âgés de 9 à 13 ans, qui fréquentaient des écoles de la région de Québec.
Est-ce qu'on sait d'où ils venaient?
Oui,
ou...
alors voilà.
Ah, d'accord, pardon.
Bonne question, ils provenaient majoritairement d'Afrique, d'Amérique
d'accord.
centrale et d'Europe.
OK.
Quand nous leur avons demandé s'ils avaient vécu des épisodes de violence suivant leur arrivée au Québec, explique la spécialiste, plusieurs ont dit qu'on s'était moqué d'eux à cause de leur accent étranger et de la couleur de leur peau. D'autres ont affirmé s'être parfois sentis exclus et indésirables, notamment à l'heure du midi à la cafétéria où aucun enfant ne les invitait à se joindre au groupe.
Mm-hmm.
Il s'agit donc principalement de violences verbales et d'exclusion sociale. C'est au cours de leur première année au Québec que les enfants vivent le plus de violences, rapporte l'étude. Comme l'exprime de manière touchante une jeune répondante lors des entrevues, je trouve ça charmant,
oui,
ce point de vue.
Allez-y.
Nous venons d'arriver et nous ne connaissons personne.
Ah oui.
Nous n'avons pas d'amis pour nous aider à nous sentir mieux. C'est donc très facile pour les autres de nous atteindre.
Exactement.
Passé cette année fatidique, les choses ont tendance à s'améliorer, notamment parce que les petits immigrants maîtrisent davantage la langue française mm-hmm. et qu'ils sont plus familiers avec les usages de leur pays d'adoption. Plusieurs jeunes ont dit ressentir de la tristesse, de l'anxiété et même de la colère face à l'adversité. Mais ce qui est intéressant, c'est que les enfants ne restent pas passifs, assure l'auteur de la recherche, et n'hésitent pas à parler de leurs difficultés à l'éducatrice du service de garde ou encore à leurs parents. D'autres confient leur détresse à leurs grands-parents restés au pays, pratiquent un sport, font du bricolage, tentent de se changer les idées, en somme. Les enfants font preuve de résilience
Mais oui.
et de créativité. Cela démontre qu'ils sont capables de se prendre en main. Mais ces enfants devraient être aidés par des campagnes de sensibilisation à la différence et au dialogue entre les communautés culturelles et par la mise en place d'espaces où ils pourraient échanger sur leur expérience, par exemple. Voilà.
Mais ce que ça nous apprend, finalement, c'est que la cour d'école, ça n'a jamais été rose. Hein?
Oh, pour personne. Oh,
pour personne. Non, non, non. Et ce que ça nous apprend, c'est qu'une cour d'école, c'est aussi une métaphore de la vie.
Oui, tout à fait. Et c'est parfois très cruel.
Parce que, bon, moi, je sais qu'en tant que Française, par exemple, si j'avais étudié à la petite école ici, si j'étais arrivée à 8 ou 9 ans, je suis convaincue qu'on se serait moqué de mon accent français.
Ouais.
J'en suis intimement convaincue, comme je suis sûre que des petits Québécois se font écœurer dans, dans les cours d'école françaises. Alors,
c'est dur la différence.
Et ce que je retiens, et ce que je trouve merveilleux, je ne sais pas pour les autres dans ce papier, moi, ce que je retiens, c'est le fait qu'ils sont résilients, c'est-à-dire qu'ils vont choisir des façons de combattre ça autrement qu'avec les poings.
De rebondir.
Et comme quoi, c'est vraiment... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, les uns et les autres, mais c'est certain. Bon, puis là, on pense aux petits Syriens là, qui vont arriver. Je sais qu'à Québec, ils vont en accueillir beaucoup. Il y a un institut qui est désaffecté, qui est encore équipé avec une cuisine et tout, qui va servir à accueillir, je ne me souviens plus combien de familles, mais en tout cas, mais on pense à ces gamins-là.
Dans la région de Montréal, c'est quand même une situation qui évolue beaucoup parce
plus courante,
que nos enfants, Marie et moi, on sont allés dans une école où, dans leur classe, ils étaient minoritaires, des enfants de souche. Alors, on rentre dans une... Puis pour eux, c'était tout à fait normal. Alors, il va y avoir quand même des rejetés. Mais la situation est en train de changer.
Il faut avoir l'œil ouvert.
Et vous avez tout à fait raison, ça, de le dire. Moi, c'est souvent d'ailleurs ce qui me fait dire qu'on vit à une époque où nous, de la deuxième, troisième génération, on a beaucoup de mal, en tout cas beaucoup de personnes ont du mal à s'adapter à ça.
Tout à fait.
Mais nos enfants et nos petits-enfants...
C'est leur vie, c'est leur quotidien.
Ça va être leur quotidien.
Tout à fait.
Mais pour les gens de notre génération, il y en a pour qui ça grince un petit peu plus.
Ouais.
Et que dire des personnes encore plus âgées, quoi, qui redoutent tout d'un coup ces invasions, les mômes.
Nos propres parents nous regardent de façon bizarre.
Ben oui, c'est ça.
Quand ils vont à l'école voir des séances des enfants, parce que, mon Dieu, il y a donc bien de race ici.
Ah, oui, c'est très cosmopolite. De toute façon, Montréal est une place très cosmopolite.
Oui.
Que ce soit par l'accent ou par la couleur de peau, la différence a toujours fait parler, si je peux dire.
Ou la taille, ou
la grandeur.
Et enfant ou adulte, hein, parce que même l'accent français, moi, en tant que française, c'est pareil, je le ressens. Dès que mon accent, dès que je parle tout de suite, elle est française.
Ben oui.
Et donc, selon l'endroit où on se place.
Oui, absolument, vous avez raison. Alors, c'est pour ça, mais nous, au moins, nous sommes adultes. Et ces mômes-là, ils auront connu la cour d'école.
Ouais.
Et ça va leur donner une petite carapace, du moins je le souhaite. Merci beaucoup pour cet excellent papier, Marie Lalande. On va se tourner vers Christine.
Oui, alors
un instant, s'il vous plaît. Oui.
On parlait de l'exclusion.
Alors, Christine, c'est à vous.
Alors, on parle de la pauvreté entre musées. C'est un article de Caroline Montpetit dans Le Devoir du 14 septembre. C'est au Musée des Beaux-Arts, c'est du 6 au 24 septembre 2015. En fait, l'organisation Le Tour de Lire.
Ah, ce que c'est beau,
dont
le
la mission
tour de lire.
Est de donner des cours d'alphabétisation dans la communauté de Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, a sollicité le musée l'année dernière pour le développement d'un projet artistique. Les participants, donc les artistes, des participants ont été appelés à illustrer les défis posés par l'analphabétisme, donc une autre forme d'exclusion, et de manière plus générale par la pauvreté. Le manque de logements abordables, une alimentation inadéquate et un faible niveau de scolarité sont en effet responsables de l'isolement que vivent bon nombre de citoyens. Les peintures, les dessins, les collages et les installations exposées traduisent la réalité des participants et de leur environnement. Alors ce que je vois c'est une, devant moi, c'est une photographie qui montre l'exposition, enfin, une œuvre en tout cas, c'est une sculpture recouverte d'annonces de rabais dans les supermarchés. Ah. Alors ce sont des... qui représentent des chiffres de 616 dollars, soit le montant mensuel de l'aide sociale de base. Ah. Alors, on y voit également les artistes. Mais ce qui est assez intéressant, nous dit Carole Montpetit, c'est qu'avant de fréquenter l'organisme d'alphabétisation, le Tour de Lire, donc, la plupart de ces gens-là, de ces artistes, n'étaient jamais entrés dans un musée. Mmh. Maintenant, ils exposent leurs œuvres. Et jusqu'au 27 septembre prochain, une quarantaine d'adultes qui sont donc engagés dans une démarche d'alphabétisation présentent l'ex-pauvreté. Donc, c'est le titre de l'expo. Ex-pauvreté, ça s'écrit E-X-P-O, avec un accent circonflexe, P-V-R-E-T-E, accent aigu. Une exposition donc dans la salle de, dans cette salle du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et à travers les œuvres qu'ils ont réalisées, nous dit Carole Montpetit, avec le parrainage du musée, on découvre les causes et les conséquences de la précarité matérielle. Donc c'est quelque chose qui est très visible là, que c'est visuellement représenté et de leur point de vue, ça peut être également intéressant. Et ce que la première œuvre que les participants ont réalisée donc montre cette manifestation pour des titres de transport gratuits. Alors, donc, ah oui. Il y a toutes sortes d'œuvres qui sont... donc, la sculpture en question, là, qui parle des annonces de rabais dans les supermarchés, est assez énorme. Et sinon, à l'entrée de l'exposition, un gigantesque œil trône et qui représente le regard des autres. Ça, ça peut être intéressant également pour tous les publics.
Ah oui, un œil.
Un œil.
Il est fait de quoi? Est-ce qu'on le dit dans le papier?
Ils ne le disent pas. Moi, je vais aller faire un tour à cette exposition. Sans doute que je vous en ferai une petite brève la semaine prochaine. Mmh. Et l'ex-pauvreté fait partie du programme Le Musée en Partage, qui existe depuis 16 ans au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ce programme vise à attirer au musée des clientèles qui ne le fréquentent pas nécessairement. Il compte également des projets d'exposition spéciaux. Alors, à propos des projets d'exposition spéciaux, je vais également parler de Toucher Rodin. Bon, bien sûr, il y a l'exposition Rodin, mais dans le cadre de cette exposition Métamorphose dans le secret de l'atelier de Rodin, c'est du 30 mai jusqu'au 18 octobre, donc vous savez, jusqu'au 18 octobre, il y a une visite tactile, rappelons-le, qui permet aux visiteurs et au grand public d'apprécier le travail de Rodin. En touchant des répliques en résine de certaines sculptures du maître, ils se familiariseront avec les formes et la texture des œuvres, ainsi qu'avec le processus de création.
Cher Yvan, c'est à ton tour.
C'est au mois de juin, moi. Alors, je vous amène à un endroit que je chéris énormément. Je suis allé il y a deux semaines, d'ailleurs, autour du lac Champlain. C'est un article que Marie m'a suggéré.
Ah!
C'est dans une revue qu'on ne soupçonne pas. C'est la revue Touring de CAA Québec.
Ah oui? Ben oui, pourquoi pas? Oui.
Alors, la grande région du lac Champlain offre un réseau cyclable de plus de 1700 km aux États-Unis et au Québec.
Okay.
Le lac Champlain Bikeway, pour sa part, couvre près de 600 km, tant au Vermont que dans l'État de New York. Puis là, on va se promener un petit peu là-dedans, dans cet article qui a été écrit par Yves Ouellette. Alors, le lac Champlain, c'est une destination favorite de bien des Québécois. Cette mer douce qu'est le lac Champlain offre un extraordinaire chapelet d'îles et un florilège de petites villes, toutes bucoliques les unes que les autres. Les parcours à l'automne en vélo, c'est un pur plaisir. Puis là, je vais vous parler de vélo, mais pas tant que ça, finalement, vous allez voir. Alors, on suit la route secondaire 2 depuis la frontière américaine, puis on se rend jusqu'au Grand Isle State Park. Puis là, on installe notre campement à cet endroit-là. Puis de là, on part. De là, le réseau cyclable emprunte plusieurs routes secondaires. On ne peut plus champêtre et tranquille qui longe la rive. Sans compter que les automobilistes sont ici très prévenants envers les cyclistes. Et j'en suis témoin. On était à peu près 12 cyclistes. Et puis quand il y a un automobiliste qui arrivait, puis qui ne pouvait pas voir en avant s'il y avait une courbe ou quelque chose, il attendait jusqu'à temps qu'il voit si la voie était libre.
Oh, wow.
Notre première randonnée à vélo, c'est une randonnée de 2 jours ici, nous mène jusqu'à North Hero State Park, à une trentaine de kilomètres au nord du point de départ. Si le parc national est carrément laissé à l'abandon, sa plage, elle, est toutefois accessible. Puis en quittant, nous arrêtons pour casser la croûte au magasin général Heroes Welcome. Puis ça, c'est assez spécial, ce magasin général-là, parce qu'ils font des sandwichs avec des noms de présidents, par exemple. Alors, il y a par exemple le Thomas Jefferson. C'est un sandwich à la dinde, au cheddar du Vermont et mayonnaise et canneberge. Ou bien...
Je ne veux même pas imaginer ce que ça goûte le bouche.
Le bouche, non, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Mais il y a le salmon egg, par exemple. Moi, je pensais que c'était une façon de dire ham and egg, mais c'est tout simplement un sandwich à la salade aux œufs qui a été conçu pour saluer Samuel de Champlain. Et sur le devant du magasin général, il y a deux bancs, un rouge et un bleu. Alors, si vous êtes républicain ou démocrate, vous asseyez sur le banc en question.
Ni l'un ni l'autre, vous vous débrouillez, vous restez sur le vélo.
C'est ça.
Ou debout. Ou debout.
Alors, une autre chose, faut continuer à faire du vélo quand même. On s'en va en direction sud jusqu'au comptoir de vente d'une très belle ferme, le Savage Gardens, sur Savage Point Road. Une expérience étonnante. On choisit ce qu'on veut sur les étals. On calcule le total. On met l'argent dans la petite caisse. Puis on prend soi-même sa monnaie sans jamais que les proprios n'interviennent.
C'est incroyable. Alors,
confiance.
Ah oui. Mais j'ai vu ça, remarque. J'ai déjà acheté des patates en Nouvelle-Écosse, sur le bord du chemin. Alors, c'est ça, là, il y avait les patates, des sacs, puis tu pouvais, dans une petite fente, laisser l'argent.
Oui.
Puis,
tout à fait.
Puis tu laisses l'argent.
On a déjà acheté des chips, me semble, à l'île du Prince-Édouard, de cette façon-là.
Ouais, ouais.
Très bonne, d'ailleurs. Ensuite, on arrête à Shelburne aussi. C'est un village avec un musée in situ, un peu comme un genre de village québécois d'antan, à l'américaine. Il faut d'ailleurs absolument y visiter le Shelburne Farms et goûter les produits de cette ferme laitière expérimentale de 1400 acres qui date du début du 20e siècle. En fait, la ferme, ça ressemble un peu... On est en Nouvelle-Angleterre, mais enlevez le mot « nouvelle ». On est en Angleterre.
OK.
Ça ressemble à un petit peu à un château là-bas.
Est-ce qu'ils commandent la pluie quasiment 300 jours par année?
Pas vraiment. Non, là, ce côté-là, on est en Nouvelle-Angleterre.
Bon, c'est très cliché, mais quand même, c'est vrai qu'il pleut beaucoup en Angleterre.
Et on finit ça, là, j'y vais très vite, on finit ça à Burlington, puis je dis ça particulièrement pour Marie, parce qu'on veut y aller bientôt.
Pour les boutiques, non?
Oui, entre autres. L'étape finale nous ramène en ville, à Burlington, où on pourrait parfois se croire chez nous, tant les Québécois y sont nombreux.
Oui.
Promenade sur les quais, sieste sur l'herbe du parc et baignade le long de la piste cyclable. Le circuit le plus populaire reste la section riveraine entre la marina et la plage. Mais elle passe à travers un quartier industriel, mais rendue à la plage, c'est vraiment de toute beauté. La randonnée s'achève sur Church Street, la rue piétonnière qui compte quelques commerces originaux, des boutiques plein air, salons de thé réputés et plusieurs terrasses où luncher en dégustant un verre de vin.
Oui,
alors, je vous ai parlé de vélo.
Merci pour cette promenade bucolique, mon ami, et surtout pleine d'images, parce que c'est ça qui est important. Tant qu'il y a des images, moi, j'adore. Je ferme les yeux et j'y suis. Oh, merci.
si on parlait de bibitte, Marie-Lalande?
Parlons bibitte. Parlons bibitte et lumière. Douce ou ravageuse lumière, impact de la lumière urbaine sur les insectes nocturnes. Mm-hmm. C'est un texte de Lydia Benhama, qui est animatrice à l'Insectarium, qui a été publié sur le site espacepourlavie.ca.
Autrement dit, elle connaît bien ça, la madame.
Oh oui, oui. L'obscurité a fait place à travers la grande évolution de l'humain à des paysages nocturnes aux lumières factices. Ces lumières procurent sécurité à l'humain que nous sommes. Vu de l'espace, la Terre brille de mille feux, mais en arrière-scène, la nature se trouve modifiée dans son essence même. Au fil des jours, les êtres vivants alternent, comme dans une danse rythmée par les levées et couchers des astres. Ce jeu de lumière régit la vie en contrôlant les processus biologiques. Ainsi, certains animaux sont diurnes, comme nous en général, alors que d'autres sont nocturnes. Une modification de ces conditions peut perturber la flore et la faune. Particulièrement sensibles aux variations de l'environnement, les insectes nocturnes sont parmi les animaux les plus touchés par ce phénomène. Et en effet, les effets de la pollution lumineuse sont pour eux dévastateurs. Des changements de luminosité ambiante dénaturent les rythmes circadiens. Ce sont les rythmes biologiques de 24 heures. Ces derniers régulent les processus hormonaux, comportementaux et physiologiques, comme l'état d'éveil, les éclosions et les migrations. Pour certains coléoptères, éphémères, papillons et autres insectes, les émissions lumineuses fragmentent les paysages et diminuent ainsi l'accès à la nourriture et aux partenaires sexuels. Elles perturbent aussi les communautés animales en modifiant les relations entre les différentes espèces, par exemple entre les prédateurs et les proies, ou entre individus de la même espèce. Et pourquoi les insectes nocturnes sont-ils attirés par la lumière artificielle, me demanderez-vous?
Pourquoi?
Pourquoi? Il peut sembler ridicule qu'un insecte tournoie inlassablement autour d'une source lumineuse pour s'y brûler ou mourir d'épuisement. Ce phénomène s'explique pourtant. Les insectes possèdent une boussole interne qui les guide dans la noirceur en s'appuyant sur le positionnement de la Lune. En se substituant à celle-ci, les lumières artificielles désorientent les insectes qui ne savent plus dans quelle direction aller. Selon une étude suisse, chaque réverbère tue quotidiennement 150 papillons, ce qui correspond à une perte de milliards d'insectes par année.
Ah oui.
En conclusion, la pollution lumineuse qui progresse année après année affecte la biodiversité et la beauté du monde. Heureusement, il est possible de réduire ces émissions en utilisant des éclairages plus efficaces. On trouve facilement dans les grandes surfaces des ampoules dites anti-insectes qui diffusent une lumière jaune qui n'attire pas les insectes. Il est également recommandé d'éteindre tout éclairage non essentiel. Les insectes et l'environnement ne s'en porteront que mieux.
Donc, on pensait que les insectes étaient attirés par la lumière, mais finalement, pas du tout.
Ils sont complètement perdus.
Ils sont complètement perdus. Ouais. Mais là, ça m'amène à quelque chose, à une réflexion. Et si nous, les humains qui sommes diurnes, il y a, par exemple, je pense aux gens à New York qui vivent continuellement dans la lumière, parce qu'à New York, je ne sais pas si vous êtes allés, mais on a l'impression qu'il fait toujours jour tellement c'est éclairé. Oui. Dans certains quartiers, bien évidemment, lorsqu'on s'éloigne un peu. Je me dis, est-ce que c'est possible que ça altère notre biologie,
sans doute.
Il y a eu des études qui ont été faites sur la quantité de lumière reçue et que ça ne respecte pas le cycle.
Non,
c'est démontré scientifiquement.
Donc, on devrait toujours dormir dans le noir, finalement.
En principe, oui.
Tout à fait.
Ah, ouais.
Et un autre article que j'ai lu dernièrement ici, il y a maintenant des tours guidées vers la noirceur. Vers les régions rurales pour voir les étoiles.
Oui,
pour
justement,
puis ça vise les gens des villes qui sont obnubilés par la lumière.
Aurions-nous quelques brèves, mes amis? Moi, j'ai envie de vous partager quelque chose que j'ai lu ce matin. Écoutez, honnêtement, je ne l'ai pas lu énormément, donc je vais essayer d'être la plus brève et surtout concise possible. On nous parle de Eva Ionesco, qui n'a rien à voir avec le théâtre. C'est une enfant qui a été ce qu'on appelle sacrifiée au désir. C'est une enfant qui a comme un petit peu une petite Shirley Temple, vous savez, qu'on va utiliser, et surtout par sa mère. Et cette femme-là, elle a amené sa mère en cour, parce qu'elle a tellement souffert dans son enfance, parce que je pense à ça, parce que Marie, vous aimez beaucoup le monde de l'enfance et de l'éducation. Écoutez bien ça, il y avait eu à peu près... on nous dit, attendez, excusez-moi, je me suis trompée. Voilà, c'est ici. Sa mère, quand elle se mettait à faire des séances de photos avec sa fille, ça a duré 7 ans, une fois par semaine. Elle photographiait sa fille toute la soirée durant, en petite tenue, maquillée,
comme une poupée,
Il fallait que ce soit suggestif au niveau du désir. Alors, il y a donc des milliers de photographies. Évidemment, qui reste encore.
Oui, qui circule.
Qui circule. Ce sont autant de pièces à conviction qui vont en servir à Eva lors des 2 procès qu'elle a fait contre sa mère et qu'elle a finalement remporté. C'était en mai dernier. La cour a considéré qu'Eva n'avait pu donner un consentement éclairé sur l'utilisation des photographies prises par sa mère et que les images, peu importe leur qualité artistique, ne peuvent être que dégradantes. Mmh. Alors, je pense à toutes ces fillettes en ce moment qui sont encore utilisées. Ouais, on ne sait jamais. Ça peut-être... à partir de maintenant, les choses vont peut-être changer. En tout cas, c'est pour ça que j'ai pensé peut-être vous lire très rapidement, évidemment, parce que c'est un très, très long papier, paru ce matin dans Le Devoir, sous la plume de Catherine Lalonde.
Mais pour ma part, j'aurais, pour terminer, rappelé, en tout cas inviter les gens. Je recommande fortement d'aller écouter le sculpteur, ce sculpteur extraordinaire en soi, au sens propre, qui est donc David Almetsch, et de l'entendre sur le site du MAC, flux.macm.org, donc flux, FLUX. Et entendre l'artiste commenter ses œuvres, c'est formidable.
Très, très bonne idée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre petite brève, Yvan, vous?
Très petite brève. Oui. On a beaucoup de chemin à faire. 12 500, c'est le nombre de places de stationnement de vélo disponibles dès 2018 près de la gare d'Utrecht Centrale aux Pays-Bas. C'est bâti sur plusieurs étages.
Oui.
Les plus grandes aires de stationnement pour vélos dans le monde qui devraient suffire aux 100 000 vélos qu'il y a dans cette ville-là.
Oh mon Dieu, il faudrait dire ça au maire du plateau, à M. Ferrandez, il nous en ferait un de 20 000.
Ah, peut-être.
Voilà, bah, écoutez, l'émission tire à sa fin. Non, pas l'émission, c'est pas vrai. Le magazine ne tire pas à sa fin, mais cette heureuse période d'une heure que j'ai passée avec vous, vraiment en très heureuse compagnie. Je vous remercie beaucoup, Marie Lalande.
Merci.
Yvan Deslauriers, Christine Boucard, merci beaucoup pour toutes ces informations.
Grand merci, mesdames.
Yvan, vous aimez mais ça, regarde le ticot. Il est charmeur. Mais bon, vous, ça a l'air de vous faire sourire, Mario.
Moi, ça me fait sourire.
Mais d'ailleurs, c'est pour ça que ça marche.
Oui.
Exactement. Merci beaucoup à vous trois. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Jeudi prochain.
Bonne semaine. Et fouillez bien pour nos auditeurs. Là. Ramenez-nous plein de belles choses à nous raconter. Merci beaucoup.
Merci.